Ce n'est un secret pour personne, la gourmandise est sacrée pour moi. Alors quand Koro m'a proposé de devenir partenaire de ce podcast, j'étais plus que ravie. Si vous ne connaissez pas encore Koro, ce sont les pionniers de l'alimentation saine et durable, et vous pouvez trouver sur leur site aussi bien des super aliments, des snacks ou encore les meilleures purées d'oléagineux que j'ai la chance de goûter, mention spéciale pour la purée de cacahuètes crunchy. Et ce qui est particulièrement cool dans la démarche de Koro, c'est qu'au-delà de proposer une très large gamme de produits naturels, dont la majorité sont vegan et bio, leurs engagements se traduisent aussi dans la façon dont ils ont imaginé la marque. Ils proposent d'acheter en gros, dans des grands emballages pratiques et minimalistes, ce qui permet de vous proposer les prix les plus justes possibles. Autant vous dire que j'ai fait la razzia au bureau, on est venu remplir le bar à céréales avec les crispies au chocolat et le granola crunchy. Et ce qui est génial, c'est que quel que soit votre régime alimentaire, vous pourrez trouver votre bonheur. Et pour vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout, on vous offre avec Koro moins 5% de remise sur votre prochaine commande Koro avec le code INPOWER, INPOWER, pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.koro.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur INPOWER, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Hortense Bourgeois, cofondatrice de Baya, une marque de bien-être centrée autour de la pratique du yoga. Vous allez voir que l'histoire de Baya est très inspirante. Hortense et Agnès, donc les deux cofondatrices de la marque, sont parties de rien, si ce n'est de leur passion pour le yoga et le bien-être, et ont réussi à lancer leur marque, notamment grâce au financement participatif. Elles ont réussi à fédérer une communauté autour de leurs valeurs, celles notamment de proposer des produits de qualité sans sacrifier la durabilité et l'éthique du produit, et en encourageant une pratique bienveillante du yoga, propre à chacun et chacune d'entre nous. Hortense nous partage dans cet épisode ce qui l'a conduite à créer sa marque et à entreprendre, comment se sont passés les débuts de l'aventure Baya et tout ce qu'elle a appris au cours de ses premières années. Elle nous partage aussi les défis auxquels on peut faire face quand on est une marque qui connaît une forte croissance et l'importance de savoir quand et comment il faut accélérer. Baya incarne, je trouve, vraiment bien les marques qui, j'espère, façonneront le monde de demain, engagées, transparentes et qui cherchent à apporter plus qu'un produit. Je pense que les enseignements que partage Hortense dans cet épisode pourront aider beaucoup d'entre nous, que l'on soit entrepreneur ou non. Si ce n'est pas la première fois que vous écoutez INPOWER, c'est peut-être que vous appréciez ce podcast. Si c'est le cas, pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. C'est gratuit et ça soutient vraiment le podcast. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcasts. Pour celles et ceux d'entre vous qui l'ont, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais si vous l'avez, un grand merci par avance pour les notes et les avis que vous laissez, ça me touche vraiment beaucoup. Et je suis maintenant ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Hortense. On va y arriver. Ça y est, c'est lancé. Super. Bah, bonjour Hortense.
Salut Louise.
Bienvenue sur INPOWER. Je suis ravie de te recevoir parce qu'en plus, pour tout te dire, ce matin, j'ai fait un cours de yoga et ma prof de yoga avait un tapis Baya. Alors je me suis dit, synchronicité. On va... c'est aujourd'hui que j'interview Hortense. Donc bienvenue. Et est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites?
Avec plaisir, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie de savoir que pendant le confinement, tout le monde se met au yoga ou presque le matin.
Ouais. Toi.
Du coup, je m'appelle Hortense, j'ai 30 ans. Je suis la cofondatrice de Baya avec mon associé Agnès, que j'ai cofondé du coup il y a 4 ans bientôt. On va bientôt fêter notre 4e anniversaire. Et je suis une grande passionnée de yoga, élève, bientôt prof parce que je suis en formation en ce moment. Voilà, rapidement.
Ouais, bah alors moi, j'aime pas ce qui est rapide. je vais creuser, tu vas voir. Mais c'est déjà, c'est super de nous situer. En effet, depuis combien de temps tu as fondé Baya? Bah, du coup, moi, généralement, je demande qu'est-ce que tu faisais en fait avant Baya. Même encore avant ça, ben, quel enfant tu étais et qu'est-ce que tu pensais faire en fait quand tu avais 8-9 ans?
8-9 ans, je crois que je voulais être juge pour enfants ou puéricultrice, tu vois, donc pas. j'ai un peu dévié entre temps. Même si du coup j'ai toujours eu une sensibilité particulière aux autres, au bien-être, ça m'a toujours assez emportée depuis que j'étais petite. Et après, moi j'ai eu un parcours assez classique de bon élève entre guillemets à l'école, parce que j'ai fait une prépa et après une école de commerce à Paris, le SCP, et du coup c'était assez classique sur mon parcours avant Baya. J'ai travaillé pendant un an et demi en Afrique du Sud, au Cap, C'est aussi l'endroit où j'ai découvert le yoga avant de me jeter dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai entrepris quand même assez rapidement après la fin de mes études pour monter Baïa.
D'accord, ok. Donc, tu avais déjà cette envie d'entreprendre. Ouais, c'est pas venu genre d'un dégoût d'une expérience dans le salariat ou c'est pas venu de... Enfin, c'est venu de quoi, en fait, tu penses ?
J'ai bossé dans une start-up et du coup, je me mettais facilement à la place des fondateurs et je trouvais ça trop stylé, leur vie qu'ils avaient. Le fait de toucher à tout, d'être hyper libre, de pouvoir être créatif. À l'époque, je faisais du commercial, donc j'étais assez cantonnée quand même à un rôle assez précis, pas forcément très créatif ou très libre. Et du coup, c'était un peu leur poste qui, moi, me faisait rêver. Et j'ai toujours été très admirative des gens qui entreprenaient, pas sur le tard, mais tu vois, un peu plus tard, parce qu'en fait, je me disais toujours que, en fait, quand tu sors d'école, t'as rien à perdre à entreprendre. Tu vois, t'as pas de vie de famille, t'as pas de prêt, t'as pas une maison à rembourser ou 14 enfants dont tu dois t'occuper, tu vois. Et du coup, j'ai toujours trouvé ça aux gens qui disent « Mais attends, t'as entrepris en étant plutôt jeune. » En fait, je trouve ça pas difficile d'entreprendre quand, entre guillemets, t'as rien à perdre. Donc ouais, j'ai eu l'envie assez vite. Le déclic, c'était aussi ma rencontre avec Agnès, du coup, qui est devenue mon associée parce que j'avais envie de le faire avec quelqu'un et c'est avéré que c'était avec elle. Donc ça, c'était l'autre déclic. Mais je me suis aussi dit que, en gros, bah, pourquoi pas essayer. Au pire, ça ne marcherait pas et ça ne serait pas très, très grave parce qu'il n'y avait pas un risque, que ce soit financier ou autre, derrière. En fait, il y a un petit risque qui est plutôt, pour moi, lié à ton ego de pas y arriver, mais ça, faut s'en donner les moyens après, quoi.
ouais, et surtout peut-être se détacher de cette idée de... En effet, j'ai vraiment l'impression que c'est un conditionnement qu'on a enfant. Si on réussit pas, mais réussir au sens de la société, on vit ça comme un échec, mais je pense que l'échec, c'est vraiment une question de ressenti et de perception, et en fait, si tu te dis, en fait, moi, ma réussite, c'est d'apprendre, ben, tu n'échoues jamais, alors c'est archi cheesy et tout, mais franchement, moi, j'essaye vraiment d'adopter cette mentalité, et je pense que c'est plus facile dans certains cas que d'autres, quoi, quand t'as un vrai goal financier, etc., et de toute façon, t'as besoin de survivre, je peux le comprendre, mais je pense qu'il y a pas mal de cas dans la vie où on va ressentir des situations comme des échecs, alors que dans l'absolu, c'est juste vraiment des super belles leçons d'apprentissage, quoi.
Mais c'est intéressant parce que j'ai écouté du coup ton podcast avec Jonathan Lehmann et il disait, tu vois, qu'il cochait un peu toutes les cases, tu vois, de la bonne situation, entre guillemets, du confort financier, etc. Et ce qui peut être un peu du coup le synonyme de succès quand tu le vois de l'extérieur. Et qu'en fait, dans les faits, c'était pas non plus un succès. Donc, je trouve que c'est toujours cette notion de succès, d'échec, elle est hyper relative à plein de choses, à des contextes dans lesquels tu grandis, effectivement, et d'éducation, de qu'est-ce qui pour toi est un succès ou qui est un échec, comment t'appréhendes. Mais en tout cas, moi, je le vois surtout aussi comme un truc d'ego, en fait, de est-ce que t'es capable de dire que ça s'est pas forcément déroulé comme toi tu le voulais. Comme toi, tu l'avais imaginé, mais c'est pas grave, et du coup, t'en ressors d'autres choses, quoi.
Ouais. Est-ce que t'as vécu, toi, étant enfant ou ado, des situations que t'as vécues sur le coup comme des échecs et qui, au final, t'ont beaucoup appris ?
Pas vraiment. Je dis, j'ai un parcours plutôt genre bon élève. J'ai pas eu une adolescence difficile. J'étais bonne à l'école. J'ai jamais été vraiment confrontée à ce... En tout cas, la notion d'échec qu'on pourrait, tu vois, voir de l'extérieur comme, je sais pas avoir son bac, pas avoir son permis, enfin, tu vois, des trucs très, très spécifiques au développement, enfin, tu vois, au casque que tu coches au fur et à mesure de ton parcours. Du coup, je l'ai pas vraiment eu. Les premiers échecs, je les ai, pour moi, les vrais, enfin, ce que j'ai pu considérer comme des échecs, je pense que je les ai vécus en montant ma boîte et en étant entrepreneur, tu vois.
Ok. Bon, alors juste avant d'en venir à ça, ça m'intéresse de savoir comment t'en es venue au yoga et peut-être nous en dire un peu plus sur cette expérience en Afrique du Sud parce que c'est vrai que les voyages, je trouve, c'est toujours très enrichissant et on en ressort toujours pas mal de beaux enseignements. Et surtout, je suis assez curieuse de savoir comment t'as vécu, toi, ton expérience en Afrique du Sud parce que pour avoir des amis et ma sœur jumelle qui y allait brièvement en quelques semaines, c'est un pays où apparemment on ressent quand même énormément encore l'apartheid. Alors bon, pour tout te dire, je sais pas si jamais j'ai déjà révélé ça d'ailleurs sur le podcast ou sur mes réseaux. Mais ma sœur, en fait, elle était monoscolo en Afrique du Sud, c'était il y a 2 ans, je crois. Et premier jour, ils arrivent, ils sortent de l'avion, les gosses avaient soif, tu vois, du coup, ils vont au supermarché acheter de l'eau et ils se font braquer le gun sur la tête, enfin,
ah oui.
Tous les enfants, ma sœur, le directeur de colo et tout, parce que, en fait, ils avaient dépassé le couvre-feu. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça de couvre-feu, c'était à Johannesburg, et enfin traumatisant quoi, ils ont pris tous les téléphones, et au-delà de ça, il y a certains qui ont eu un pistolet sur la tête, tu vois, et moi vraiment depuis, je me dis putain, l'Afrique du Sud ça a l'air trop beau, mais j'ai peur, enfin voilà, du coup je suis curieuse de savoir comment t'as vécu ton année et demie là-bas.
Bon, Johannesburg c'est particulier, j'y ai pas vécu, donc je me prononcerai pas sur, enfin tu vois, je sais pas très bien comment concrètement ça se passe là-bas. Moi j'étais au Cap, où clairement t'as encore une ségrégation assez marquée, des quartiers blancs, des quartiers noirs, des quartiers blancs qui sont sursécurisés, c'est-à-dire que les maisons sont grillagées, t'as quand même des patrouilles qui patrouillent en fait la nuit pour s'assurer que tout va bien. C'est une atmosphère très différente de ce qu'on a l'habitude quand toi tu vis à Paris et que tu sors jusque 3h du mat et que tu rentres toute seule sans jamais t'être posé la question de est-ce qu'il peut m'arriver un truc ou je me sens en insécurité. Tu vois, ce sentiment d'insécurité, c'est un truc je trouve qu'on a très peu nous en France, enfin, en fonction de évidemment là où tu grandis. Moi, là où j'ai grandi, j'ai jamais eu ce sentiment-là de « faut faire attention, t'es une femme blanche », mais c'est plus un truc qu'on te dit, et moi, j'ai jamais eu, en tout cas, de problème quand j'y étais. Donc, la sécurité, c'est tout un sujet là-bas. Clairement, tu sens encore la ségrégation. Clairement, tu vois que les groupes de jeunes blancs et de jeunes noirs sont pas habitués du tout à se mélanger. C'est très spécial pour nous quand on a grandi dans des lycées ou des collèges plutôt mixtes, où ça se mélange très bien. Là-bas, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est assez particulier à voir quand t'es français ou européen. Voilà, après, c'est vraiment sur l'aspect plus géopolitique, entre guillemets. Sur l'aspect cadre de vie, le Cap, c'est une ville magnifique sur laquelle tu vis dehors. Si t'aimes les sports de la rando, le surf... et le yoga, entre guillemets, c'est un endroit qui est quand même très chouette pour passer un peu de temps. En revanche, tu peux... Enfin, pour moi, je n'y serais pas assez longtemps parce que c'est un peu comme si tu te mettais des œillères de ne pas voir tout ce qui se passe à côté des townships, donc les bidonvilles à côté du Cap où la moitié des Sud-Africains vivent sous le seuil de pauvreté, où il n'y a aucun accès à des services de base, tu vois, qui nous semblent vraiment... très primaire, enfin bref, c'est hyper compliqué, donc j'aurais jamais fait ma vie là-bas parce que tu sens que c'est pas un pays qui est très qui est pas du tout égalitaire et qui a encore une grande marge de manœuvre sur des sujets de d'inclusion et de diversité.
Et du coup, c'est là-bas où tu t'es initiée au yoga. Donc avant, t'en faisais pas du tout ou t'avais déjà un peu quand même touché à la pratique?
Non, j'en faisais pas du tout. Et c'était ma coloc de l'époque, Ramona, qui est une de mes colocs allemandes, qui faisait un peu de yoga sur la plage. Et ça m'a toujours un peu... Je la regardais un peu de loin, je trouvais ça joli. Et tu vois, je savais même pas comment ça s'appelait le type de yoga qu'elle faisait. C'était genre... Je la voyais 20 minutes sur la plage, elle me montrait des trucs, je trouvais ça cool, je le faisais avec elle. Enfin, il n'y avait pas du tout l'aspect, tu vois, d'avoir la démarche d'aller en studio, de rencontrer un prof. Elle n'était pas prof, tu vois, c'était vraiment juste de la curiosité que j'avais. Et du coup, j'en faisais avec elle pendant 6 mois, 1 an, et je suis rentrée à Paris. Et c'est là où, du coup, j'ai fait mes premiers cours, entre guillemets, un peu plus académiques dans les studios avec des profs, et où là, du coup, t'approfondis un peu plus ce rapport au corps, à la spiritualité aussi, qui est une partie intégrante du yoga. Et du coup, je l'ai découvert un peu plus sur le tard. Parce qu'au début, je trouvais juste ça trop cool de le faire dans des très beaux spots sur la plage du Cap.
Et est-ce que t'as eu de la facilité à te mettre dans la pratique? Ça, c'est une question que je te pose, ouais, en... en toute honnêteté, et parce que personnellement, moi, j'ai eu du mal à... Au début, j'aimais pas ça. Franchement, moi, au début, j'aimais pas le yoga. Alors, je pense que ça joue énormément du fait du sport qu'on pratique en dehors. Donc, moi, j'ai fait pas mal de muscu, de fitness. Et donc, c'était vraiment mon truc, tu vois, soulever des poids lourds, me drainer, tu vois. J'avais vraiment besoin de ressentir cet effort pour générer des endorphines et tout, et pour me sentir bien. Et le yoga, du coup, vraiment, ça m'ennuyait, tu vois. J'étais là, mais putain, on tient les pauses pendant 4 heures, ça change pas assez, etc. Et du coup, en fait, j'ai un peu abandonné totalement. Et je m'y suis remise un peu par nécessité. C'est-à-dire, j'étais dans une phase où j'étais vraiment hyper stressée, hyper anxieuse. Alors, je pense que les personnes qui me suivent un peu partout sur les réseaux vont en avoir marre que je parle de ça, mais des problèmes hormonaux que j'essaye de réguler, tu vois. Et je sais que le yoga peut énormément aider. Et en fait, c'est Jonathan que tu as cité qui m'a initiée au hot yoga. Il m'a dit, non mais viens tester le hot yoga, c'est vraiment différent du yoga habituel. Donc on est dans un studio à Paris et j'ai vraiment aimé. C'est-à-dire que ça dure 1h30, ce qui est pour moi hyper long. Et j'ai limite pas vu le temps passer. T'es là, tu sues comme un bœuf, tu fais 26 pauses, donc tu changes vachement. Enfin bref, et je me suis dit, incroyable, en fait, peut-être que j'ai trop vite jugé le yoga. Et peut-être qu'en fait, j'aime ça. Mais voilà, du coup, j'avais un peu cette culpabilité limite de pas aimer le yoga, tu vois, parce que j'avais l'impression que toutes les personnes qui essayaient, c'était genre coup de cœur, yoga, connexion corps-esprit, on se sent trop bien. Alors que voilà, je sais pas pour toi, mais moi, perso, ça a pas été comme ça dès le début, quoi.
C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de, notamment à cause, entre guillemets, d'Instagram, mais où t'as ce truc-là de... ça peut être life-changing, le yoga, il faut absolument que tu essayes, que ça aille à tout le monde, etc. Et en fait, le fait est qu'il y a tellement de styles de yoga, tu vois, tu le cites toi, et tu as tellement de profs de yoga qui enseignent de manière différente et qui ont des pédagogies différentes, que pour moi, c'est hyper... En fait, tu peux pas dire « j'aime pas le yoga », peut-être qu'un yoga que tu as essayé, ça t'a pas plu, et c'est normal, et c'est pas grave, tu vois. Mais il y a tellement de diversité dans le monde du yoga que je trouve que c'est aussi, et souvent surtout, une histoire de tester plusieurs trucs, de savoir pourquoi, tu vois, tu veux le faire. C'est marrant parce qu'au début, c'est exactement ce que tu viens de dire. Peut-être que tu avais commencé comme ça sans trop savoir, et du coup, tu savais pas vraiment ce que tu recherchais ou ce qu'il te fallait. Quand après, on t'en a reparlé et que tu as trouvé peut-être des avantages, entre guillemets, que ce soit pour des soucis hormonaux ou des soucis de stress, peut-être que si tu y vas avec un objectif ou une attente ou un besoin, tu arrives mieux à cerner aussi les bénéfices que tu veux en retirer. Et du coup, d'être plus proactif dans le prof que tu vas choisir, ta régularité aussi, parce que tu vois, si après 1h30 de yoga, tu te sens trop bien, bon, la semaine d'après, tu vas peut-être te dire « trop chouette, j'ai envie d'y retourner parce que ça m'a fait un vrai effet sur mon mental et sur mon physique ». Donc, je pense qu'il y a tellement de contenu, de profs, de types de yoga qu'il faut prendre le temps et pas se mettre une pression dingue non plus sur « bon, tout le monde adore ça, je vois que ça sur Instagram, il me faut absolument ma séance de yoga hebdomadaire », tu vois. Et c'est un peu aussi ce qu'on essaie de montrer chez Baya. C'est de, en gros, il y a autant de pratiques que de personnes, et en fonction de ton cycle, ton âge, ton mood du moment, tu vas avoir envie de choses plus ou moins intenses, de 1h30 d'ashtanga ou de hot yoga versus 15 minutes juste de respiration assise en tailleur sur ton tapis parce qu'en fait, tu n'as juste pas l'énergie de faire quelque chose d'autre, et que, en gros, ça fluctue avec... tes envies, tes humeurs, tes besoins, et que tu peux pas toujours dire il faut absolument faire tes 108 salutations au soleil tous les matins, tu vois. C'est aussi d'être assez bienveillant dans les contraintes que tu te mets par rapport à ta pratique. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas, enfin, d'être régulier dans sa pratique, ça peut être un super atout, mais je pense qu'il faut pas non plus mettre une pression outre mesure de il faut absolument, j'ai ma morning routine yoga tous les matins de tous les jours de la vie, quoi.
Ouais, non, mais ça, c'est vrai que je trouve que c'est un aspect qui est vraiment très beau dans le yoga, c'est cet aspect justement très déculpabilisateur, très personnel. Et c'est marrant parce que moi, du coup, j'ai commencé avec le confinement et les studios de yoga qui ont fermé, j'ai commencé des cours particuliers. Et en fait, souvent, je demande à ma prof, est-ce que là, je fais bien ? Attends, tu respires quand ? Et en fait, elle ne cesse de me répéter, je commence à l'intégrer. n'y a pas de bonne façon de faire ou pas. Mmh. Et donc, moi, je suis un peu là, horrifiée parce que j'aime trop bien faire et je suis un peu là, comment ça ? Mais en fait, c'est vrai que je trouve que c'est vachement beau, en fait, dans le yoga. C'est vrai que c'est pour chaque personne, ça va être différent. Et l'important, c'est que tu te sentes bien, quoi. C'est un peu ça, la finalité du yoga.
Ouais, exactement. Et que souvent, tu as ce truc de vouloir bien faire. Et c'est peut-être aussi des syndromes de bonnes élèves, tu vois, que toi, au moins, on peut parfois avoir. Ouais. Mais tu vois, de faire comme le prof, d'être exactement aligné, etc. Et en fait, quand tu creuses un peu, c'est hyper intéressant. Et je le vois en ce moment dans ma formation pour être prof. C'est que parfois, en fait, tu as juste une anatomie tellement différente, tu vois, entre toi et moi. Il y a des trucs que toi, tu pourras faire. Et que moi, parce que mon fémur... et d'une certaine manière et mon bassin d'une autre manière, j'arriverai en fait jamais à le faire de toute ma vie. Donc je pourrais m'entraîner tous les jours une heure, ça changerait rien. Donc c'est aussi d'avoir un certain recul et une bienveillance par rapport à ton corps et à ce qu'il est capable de faire que je trouve hyper chouette, quoi. Effectivement.
C'est clair. J'adore. On est parti dans une espèce d'analyse du yoga. Mais non, mais c'est intéressant. Vraiment, je trouve que c'est une discipline, enfin un art, quoi, hyper complet. Mais du coup, ça m'intéresse aussi de savoir comment toi, tu passes juste de cet intérêt pour le yoga à créer une boîte autour de ça. Voilà, quel a été un peu le cheminement qui t'a mené à la création de Baya ?
Donc du coup, quand je suis rentrée à Paris, j'ai commencé à voir qu'il y avait un peu des studios de yoga qui poussaient dans tout Paris, ce qui n'était pas du tout le cas quand j'étais partie, et à trouver ça du coup hyper intéressant, à aller en tester plein, à regarder ce qui se faisait en termes de matériel et à me rendre compte qu'en fait, je trouvais qu'il n'y avait vraiment pas de marque qui, moi, m'inspirait. Ou en tout cas, j'avais envie de m'équiper, de m'acheter du matériel. Et je ne me disais pas, waouh, il y a cette marque-là que j'ai trop envie d'acheter pour avoir mon tapis à moi, ma brique, ma sangle, etc. Et du coup, de là, je me suis dit, bon, il y a peut-être quand même quelque chose à faire avec toujours mon envie d'entreprendre que j'avais gardée et que je m'étais gardée dans un petit coin de ma tête en disant, je pense que ça viendra, mais que je laissais sans trop de pression grandir. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire sur l'aspect vraiment équipement accessoire. Il manquait de produits que je trouvais à la fois techniques où tu puisses te dire, comme quand tu te mets au running, tu vois, de t'acheter une bonne paire de baskets parce que c'est ça aussi qui va te motiver, t'encourager, t'inspirer. Donc des produits qui sont à la fois techniques et à la fois beaux parce qu'en général, les produits qui étaient un peu plus... techniques, donc de marques américaines par exemple qui étaient sur le marché à l'époque, ben moi je les trouvais pas beaux et ça m'inspirait pas du tout confiance de dérouler tous les matins mon tapis d'un gris ou d'un violet que je trouvais pas très inspirant. Et du coup j'en ai parlé assez rapidement à Agnès qui était du coup graphiste et DA dans la boîte dans laquelle on bossait avant, qui a du coup l'aspect visuel et le sens du beau qui manquait du coup pour monter ça et on en a parlé, on a brainstormé pendant 6 mois, on travaillait le soir et le week-end sur Baya et du coup est né Baya qu'on a lancé au tout début sur Ulule pour en gros pour se dire qu'est-ce que ça pourrait donner, est-ce que ça pourrait être un business viable un jour, du coup sans prendre trop de risques financiers au tout début.
Et du coup, c'était quoi la vision au début de Baya ? Est-ce que au début, vous vouliez, enfin, vous avez juste dit, on va devenir la marque qui va fournir les studios de yoga. Est-ce que vous avez déjà cette vision 360 ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une communauté. Et je te dirai après ce que m'a dit ma prof de yoga, mais vraiment, j'ai trouvé ça beau. Enfin, je trouve que vous avez vraiment réussi à créer, à fédérer les adeptes avancés ou moins avancés. C'était quoi un peu, ouais, au début, votre objectif et votre vision ?
Je pense que la vision du début, c'était vraiment d'avoir des produits et du contenu qui était à la fois diversifié, beau et de qualité. Donc, c'est assez humble, entre guillemets, comme vision de départ. Mais quand tu veux vraiment bien faire ça, ben, en fait, ça prend énormément de temps, d'énergie, de focus sur le client, sur la communauté, etc. Et on se disait, si déjà les gens qui utilisent nos produits ont envie de le recommander autour d'eux, se sentent motivés par les designs qu'ils voient quand ils déroulent leur tapis le matin, ben en gros, c'est ce qui nous importe. Et après est venu le côté un peu plus vision moyen terme, et je pense que tu développes aussi quand tu intègres des gens dans ton équipe, parce que tu as besoin de la construire, de plus la verbaliser. Je trouve qu'au début, c'était très intuitif avec Agnès. Tu vois, tu fais pas forcément le travail de poser des mots, de poser des concepts, de poser une vision de marque à 3 ans, etc. Je trouve que ça, tu le fais plus, tu vois, peut-être quand ça faisait un an et demi qu'on avait lancé Baïa, où du coup, là, tu as besoin d'onboarder des gens dans ton projet qui croient à ta vision et du coup, de verbaliser, de mettre des concepts, en fait, sur ce qui, toi, t'anime très intuitivement depuis le début de la création de la marque.
Ouais, je comprends totalement. En fait, vous êtes un peu allé aussi au jour le jour, quoi. Enfin, ouais. Pas à pas. Et je trouve que c'est pas plus mal. Je trouve que ça déstresse aussi vachement, quoi, de business plan, absolument, vision à 2 ans, 3 ans. Je pense qu'en effet, déjà, vous avez validé l'idée. Et c'est ça aussi une grande force du crowdfunding, quoi. C'est vérifier qu'il y a un vrai besoin et que ça plaît. Peut-être itérer aussi en fonction. Est-ce qu'il y a des choses d'ailleurs que vous avez changé, typique après la première campagne? Est-ce que vous avez eu des retours qui vous ont fait changer des choses chez Baïa?
Au tout début, ouais, on avait lancé du coup qu'avec 2 gammes et 4 designs, dont un d'ailleurs qui n'avait pas du tout marché. En gros, tous nos ventes étaient sur 3 designs et il y en avait un qui était, tu vois, qui avait eu peut-être 2 commandes. Donc déjà, ça t'aide à cibler les goûts. Donc ça, c'est ouais. Quand même toujours un apprentissage assez fort. Et ça, on l'a gardé vraiment dans notre développement après de... Quand on a un doute sur un design, on le montre à notre communauté d'ambassadeurs, on le montre sur Instagram pour faire voter les gens. En gros, on a toujours eu une relation assez particulière à notre communauté de proximité qui fait qu'on itère en fait toujours beaucoup. On fait des questionnaires sur vous aimeriez avoir quoi comme accessoire, vous avez besoin de quoi comme type de contenu. Là, par exemple, pendant le confinement, on voulait faire des lives, tu vois, et on demande est-ce que vous avez envie d'un cours de yoga, d'un cours sur la philo du yoga, d'un cours sur le pouvoir des pierres d'alignement en ashtanga, tu vois. Enfin, on a toujours eu cette proximité-là avec la communauté qu'on a construit au début vraiment grâce à Ulule et au crowdfunding. Ça, je trouve que c'est vraiment un gros, gros atout pour les marques comme nous qui se lancent au début sur ce genre de plateforme.
Ouais, non, je pense en effet que ça présente vraiment beaucoup d'avantages et après j'imagine qu'il y a aussi des aspects plus difficiles et ça m'intéresse vu qu'on l'a un peu abordé du coup tu nous disais que les échecs entre guillemets ou en tout cas les périodes plus compliquées tu les as vécues plus tôt à la création de ta boîte. Est-ce que tu peux nous partager un moment en particulier que tu as vraiment vécu de manière plus difficile et comment t'en es sorti en fait?
Je trouve que les moments difficiles ils évoluent aussi, enfin ils dépendent de l'âge de vie de ta boîte, tu vois, t'as pas les mêmes peut-être que quelque chose qui me paraissait très difficile au début aujourd'hui ça me paraîtrait plus difficile. Je vais donner un exemple. Au début on a eu beaucoup de galères logistiques, tu vas voir, c'est un petit bonheur là.
Ah, j'ai hâte.
Quand on lance du produit, donc des retards de réception, des colis qui arrivent pas, des mix dans les préparations de commandes, enfin, et ça c'est au début quand t'es les mains dans le cambouis et que tu veux juste que tes clients reçoivent leurs colis et qu'ils soient contents de leurs colis, bah c'était super, enfin tu vois, c'était super dur à gérer. Mais ça, après tu passes une étape parce que du coup tu peux faire appel à un prestataire extérieur, que maintenant on a chez nous une personne, Émilie, qui gère, tu vois, toute la logistique et le développement de produits. Et du coup je trouve que tu passes des étapes aussi comme ça, de ce qui te paraissait au début vraiment un chantier insurmontable, aujourd'hui bon, en fait c'est quelque chose qu'on a appris à maîtriser. Donc je trouve que aujourd'hui par exemple, tu vois, un de nos enjeux c'est on en a plein, tu vois, mais un truc que moi je trouve dur, c'est de trouver les nouvelles inspirations et du coup onboarder ton équipe dans cette vision. En gros, quand t'es entrepreneur et surtout jeune entrepreneur, t'as personne au-dessus de toi qui va te challenger, te motiver, t'inspirer, et c'est ces choses-là que tu dois aller chercher proactivement à l'extérieur. Donc tu vas faire des rendez-vous réseau, tu vas... nous, on a de la chance d'être hyper encadrés, notamment par nos investisseurs et qui sont vraiment hyper précieux pour nous. Mais c'est une démarche proactive que tu dois faire pour ensuite l'insuffler à ton équipe, tu vois, et leur permettre à elles... Enfin, nous, on n'est que des filles, donc je dis à elles au pluriel. Mais ouais.
Profitons-en pour une fois.
Ouais. De partager ta vision... d'être motivé, d'être inspiré. Et ça, je trouve que toi, t'es garant de ça quand t'es chef d'entreprise. et que parfois il faut avoir l'énergie de remotiver, rechercher en fait au fond de toi pourquoi tu fais ça, pour pouvoir entraîner toute l'équipe derrière toi, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un travail hyper intéressant, qui est très introspectif, et qui est là, où, en gros, où est-ce que moi, je trouve mon énergie, où moi, je me trouve bonne ou moins bonne, et comment je peux insuffler, du coup, mes points forts à l'équipe et travailler sur mes points faibles. Donc, tu vois, c'est un truc auquel, au début de Baya, je ne me serais jamais posé cette question-là de comment j'insuffle à l'équipe mon énergie ou notre vision avec Agnès, tu vois.
Donc, c'est clair, c'est clair, ouais. Ça évolue à chaque étape, carrément. Et c'est aussi une vraie question, je trouve, et c'est intéressant qu'on en parle, parce que je pense qu'on s'en rend aussi pas forcément compte, mais bah, tu vois, typique, toi, t'as commencé l'entrepreneuriat au sortir de tes études, peut-être que ton associé aussi, donc t'as pas forcément eu d'expérience de formation ailleurs. Comment est-ce que, justement, tu te formes? Comment est-ce que tu fais en sorte, quand même, de progresser, sachant qu'il y a personne au-dessus de toi pour t'aider, quoi?
Ouais, c'est super dur. C'est pour moi, c'est vraiment un effort que j'adore faire, mais c'est un truc qu'on s'oblige à faire, tu vois, parce qu'en fait, sinon, tu progresses pas. Moi, j'ai tendance à m'ennuyer très rapidement. Je suis assez speed, et donc du coup, en fait, si au bout de 2 ou 3 mois, je suis pas sur un nouveau sujet ou j'ai pas mis en place une nouvelle idée, en gros, ça, c'est pas que ça m'intéresse plus, mais j'ai besoin, tu vois, de renouveler.
Ouais, ça t'apporte de l'énergie de faire de nouveaux projets. Je suis pareil. Ouais. Donc...
Et du coup, bah, ça pour moi, ça passe par tu construis un écosystème autour de toi de gens qui te font du bien et qui t'inspirent. Donc, tu vois, nous, on faisait partie au tout début de Baya, on était lauréat du MoveJ. Je ne sais pas si tu connais, c'est le mouvement des jeunes entrepreneurs.
Ouais.
Qui un peu te plonge dans un écosystème entrepreneurial qui est hyper chouette. On est aussi lauréat du réseau Entreprendre Paris. Pareil, tu vois, c'est un très gros réseau d'entrepreneurs qui partagent tes problématiques, sur lesquelles tu peux être hyper transparente, et tu as une bienveillance qui est incroyable de dire en gros, ben, j'ai ce problème-là, est-ce que vous l'avez déjà rencontré, comment vous pouvez m'aider? Et maintenant, on a des investisseurs du coup qui investissent dans plusieurs boîtes, et du coup, entre ces boîtes-là, on échange aussi vachement. Donc, je trouve que ça passe vraiment par créer un écosystème autour de toi, de gens qui veulent que tu progresses, qui n'ont pas forcément d'intérêt à ce que tu progresses, mais qui le font de manière très, très bienveillante, tu vois, de bah, ce que ça te dit de suivre cette formation, d'aller à cette conférence, je sais pas, d'écouter un podcast, de lire ce livre, etc. Et je trouve que c'est un réseau d'échange, en fait, qui est hyper, qui est hyper constructif et qui me nourrit, moi, vachement. Et j'essaie de faire un truc aussi, qu'on essaie aussi d'insuffler à l'équipe, qu'on appelle les rendez-vous métiers, où en gros, une fois par mois, même parfois deux, j'envoie un mail à quelqu'un à qui j'ai envie de prendre un café ou déjeuner, qui va souvent être un entrepreneur, tu vois, pour partager des bonnes pratiques, des échanges d'expériences, ou juste, tu vois, sur les galères ou les succès du moment. Et ça, c'est souvent des moments que je trouve hyper chouettes et qui me reboostent en énergie aussi après.
Ouais. Est-ce que t'as eu ou est-ce que tu as encore des mentors ?
On en a eu un du coup, enfin une, Charline Goutal via le MoveJ, et on en a eu deux au réseau Entreprendre. Aujourd'hui, c'est un peu différent, on est quand même bien accompagné par nos investisseurs qui peuvent avoir un peu ce rôle-là de mentor et d'accompagnant. En gros, pour moi, tu as une vision très opérationnelle du mentor que tu peux solliciter sur certains sujets très précis. Mais ce que j'aime avant tout chez nos investisseurs, c'est qu'ils te permettent une prise de recul, tu vois, d'un dézoom en gros. On les voit en général une fois par trimestre. Et c'est un dézoom hyper intéressant sur où on en est par rapport au plan stratégique, est-ce que la vision a évolué. Et du coup, le fait de les préparer, ces réunions, ça permet aussi, tu vois, d'avoir un certain recul sur ta boîte que tu n'as pas dans la vie de tous les jours.
Ouais. Et est-ce qu'il y a des enseignements peut-être que t'ont appris justement ces mentors qui t'ont vraiment aidé, qui t'ont vraiment fait évoluer, des conseils quoi, précieux qui t'ont aidé après dans la suite du développement de Baya?
Je pense que bah, le fait d'être bien entouré, bon ils sont bien placés pour nous le dire, tu me diras, mais de se créer cette bulle-là de confiance et d'échange libre, ben, ils nous l'ont toujours dit et c'est un truc que moi j'estime encore hyper important. et de se garder des temps avec Agnès, entre associés, pour discuter, tu vois, de notre vision, de comment ça va en ce moment. Enfin, voilà, de vraiment se garder des temps toutes les deux. Quand tu es de plus en plus sollicité par une équipe qui grandit, de se garder ces temps-là à deux aussi pour échanger.
D'accord, trop cool. Et du coup, tu as cité deux, trois fois les investisseurs qui vous accompagnent. Quand est-ce que vous avez décidé de lever des fonds? Quand est-ce que vous avez décidé, voilà, d'ouvrir votre capital? Et comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que c'est jamais facile, de ce que j'entends. Est-ce que vous avez eu le choix? Parce que ça, je trouve que c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas assez. Enfin, pour voilà, maintenant avoir reçu quand même pas mal d'entrepreneurs sur ce podcast, pour en avoir rencontré pas mal, en fait, lever des fonds, c'est pas nécessaire pour toutes les boîtes. Et il faut pas que ce soit perçu, je trouve, comme une finalité. Après, c'est mon avis, pour moi, ça doit vraiment venir quand on n'a pas le choix et qu'en fait, on a besoin de fonds pour développer la boîte. Donc ouais, comment est-ce que tu te situais par rapport à ça et comment vous avez fait pour trouver les bons investisseurs? Parce que je pense que le choix est aussi hyper important.
C'est vrai que c'est pas un sujet dont on parle beaucoup. Enfin, il y a toujours, je sais pas, une espèce de secret autour de tout ça qui est assez, assez étrange. Nous, on a levé des fonds il y a un an et demi, en mai 2019. Et le pourquoi on a levé des fonds, c'était pour accélérer. En fait, on a comme beaucoup de DNVB, donc des DNVB, c'est les marques comme nous qui sont nées sur le web. Ouais. Qui consolide souvent sur une verticale, donc nous, le yoga par exemple, avec une communauté forte. Donc nous, Baya, on coche vraiment toutes ces cases-là. En gros, soit tu fais du volume pour du coup avoir un business model qui est rentable. Et de base, les DNVB sont plutôt rentables. C'est-à-dire que tu as quand même des investissements qui sont plutôt modérés. Tu n'as pas un réseau de 300 boutiques pour pouvoir exister. Normalement, tu n'as pas des frais fixes énormes, etc. Donc du coup, nous, on avait un business model qui de base était rentable. C'est-à-dire qu'on ne perdait pas d'argent. En revanche, pour pouvoir aller plus vite et du coup avoir des volumes qui étaient aussi plus intéressants et occuper une place de choix, parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéressait, ce n'était pas de faire un petit peu de l'artisanat dans notre coin, mais c'était de parler au plus grand nombre, de pouvoir diffuser nos beaux tapis dans plein de studios, auprès de plein d'ambassadeurs, auprès de plein de clients. Et ce truc-là, tu l'as aussi quand tu as une force et un pouvoir d'action un peu plus gros de ce qu'on avait, parce qu'en fait, on n'était que deux. Et du coup, on a vraiment levé des fonds pour pouvoir embaucher et pour pouvoir accélérer sur toute la partie plus acquisition. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça ne va pas être une fin en soi. C'est-à-dire qu'on aurait pu continuer notre business as usual, entre guillemets. Mais du coup, on aurait mis beaucoup plus de temps et probablement d'énergie. On serait peut-être épuisé, Agnès et moi, sur du très opérationnel. Alors qu'en fait, on avait envie de développer du contenu aussi, de travailler sur l'international, de travailler sur un réseau de distributeurs. On avait plein d'autres idées. Que du coup on n'avait pas le temps de faire parce que t'es un peu sur tous les fronts à la fois, quoi.
Du coup, vous êtes quand même restés, si mes calculs sont bons, 2 ans toutes les deux.
Oui, exactement, ouais. Ah ouais, quelques stagiaires, tu vois, notamment en community management au début, qui prend beaucoup de temps. Ouais.
Ouais. Non, c'est vrai que 2 ans à deux, je sens l'énergie qui a dû être dépensée. C'est pas facile.
Du coup, c'est quoi les... d'accueillir nos premières salariées.
Ouais. Bah, j'imagine, et c'est justement ce que j'allais te demander. C'était qui les premières personnes que vous avez recrutées, à quel poste et pourquoi?
La première personne qu'on a recrutée, donc outre stage, c'était notre directrice marketing, Amandine, qui est en charge de toute la partie marketing, à la fois stratégique et déclinaison opérationnelle, de notre partie web, de la com, enfin, voilà, de plein de choses. Parce que nous, on avait peu d'expérience sur la partie vraiment web et acquisition, qui peut être assez technique quand même. Donc du coup, c'était vraiment de se renforcer dans les capacités techniques de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, c'est un autre conseil qu'on nous avait donné, mais qu'on n'a pas trop respecté, c'était de pas faire appel à ton cercle pour les personnes que tu recrutes. Enfin, tu vois, en gros, Amandine, moi, c'est une de mes super copines, tu vois. Agnès, avant qu'on s'associe, c'était aussi une de mes très bonnes amies. Et en fait, ben, pour l'instant, ça se passe tellement bien que j'ai jamais regretté le fait qu'on se soit entouré de personnes en qui on avait entière confiance. Et certes, une liaison amicale, mais qui aujourd'hui nous a jamais été nocive ou néfaste, tu vois. Par exemple.
Ouais, non, mais je pense qu'en effet, il n'y a pas de règle à ce niveau-là, quoi. C'est comme la famille. Enfin, si c'est quelqu'un avec qui tu travailles super bien et tu sais que ça peut le faire, go. Mmh. Si t'es pas quelqu'un... Enfin, tu vois, typique, moi, je sais que ça n'a pas trop marché, le côté famille. Alors, j'ai pas testé ami, mais du coup, maintenant, je suis un peu réticente. Il y a un enjeu derrière, tu vois. Et ouais, non, mais ça, c'est aussi une question que je voulais te poser. C'est, ben, du coup, comment est-ce que tu choisis les personnes qui vont rejoindre l'aventure? Et surtout, comment tu les nourris? Comment tu leur donnes envie de rester? Parce que, ouais, j'ai l'impression que c'est hyper difficile de trouver vraiment les perles rares, tu vois, et qu'elles ne partent pas, parce qu'on vit dans une génération où j'ai l'impression que les gens, ils restent 2 ans dans une boîte, puis ils vont voir ailleurs ce qui se passe, etc. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous, chez Baya, vous avez eu pas mal de turnover, et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que vous faites pour que les gens restent?
Nous, on n'a pas encore eu de départ, parce que du coup, on a commencé à embaucher il y a 1 an et demi, donc c'était pas non plus, tu vois, ça fait pas non plus très très longtemps. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Quand on recrute des personnes, d'ailleurs, que ce soit même parfois nos stagiaires ou des freelances avec lesquels on travaille, on a toujours un côté d'affinité avec notre secteur qui fait qu'en fait, il y a tout de suite un lien assez spécial qui est créé avec la marque, parce que souvent, c'est des personnes qui pratiquent, elles, le yoga ou qui adorent le bien-être ou pour qui c'est des valeurs importantes, en fait. Et du coup, je trouve que de pouvoir te rattacher aux valeurs de la boîte pour lesquelles tu travailles, en l'occurrence, nous, c'est de parler de créativité dans nos designs, de qualité, de communauté, tout ça, en fait, ça leur parle vachement. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que tu as envie de rester, de t'investir dans la boîte pour laquelle tu travailles. Et aussi, je pense que le fait d'être sur un mode... Nous, on a un mode de fonctionnement super entrepreneurial, c'est-à-dire que tu es en charge de tes projets, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. On a un management très autonome, très responsabilisant. Il faut en avoir envie, tu vois, ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Tout le monde n'a pas envie d'être hyper responsabilisé, d'être limite entrepreneur au sein de sa propre boîte. Mais si tu en as envie, ben, nous, on te donne exactement la place que tu peux avoir, tout le champ d'action pour être super créatif, développer tous tes projets et du coup avoir une rapidité d'exécution qui fait qu'entre le moment où tu as une idée et que tu la soumets à l'équipe, oh, j'aimerais vraiment bien qu'on fasse ce truc-là, en fait 2 semaines plus tard, si tu as réussi à onboarder les personnes, ben, tu vas voir très vite ton projet qui se réalise. Et je pense que du coup, ça c'est une rapidité d'exécution qui est hyper stimulante quand tu travailles dans ce genre de contexte et qui est du coup pour moi une des gros avantages pour quand tu travailles dans une start-up, quoi.
Quels sont peut-être les plus gros challenges auxquels tu as dû faire face en tant que manager et en tant que CEO?
Ce que j'ai trouvé le plus dur ou en tout cas pour lequel j'étais le moins armée mais que j'ai adoré apprendre, c'était la levée de fonds. J'ai trouvé ça super dur je sais pas si c'était par rapport à une question de caractère, mais en fait de se vendre. Et du coup je me suis fait coacher, tu vois, par quelqu'un pour apprendre à pitcher, apprendre à affirmer, pas dire je pense, peut-être, oui ce résultat est pas mal, tu vois, être beaucoup plus affirmative et beaucoup plus fière en fait de ce qu'on faisait, parce que j'ai toujours eu un peu tendance à minimiser, tu vois, et du coup en fait quand tu vas voir des investisseurs, tu dois les faire rêver, tu vois, tu dois montrer à quel point tes résultats sont incroyables, tu crois en ta boîte, etc. Et j'ai trouvé ça très dur et ça m'a pris un mois et demi avant d'être à l'aise dans mon pitch. Et maintenant, j'irai voir des nouveaux investisseurs sans problème s'il fallait. Mais ça, j'ai trouvé que par rapport à mon développement pro, c'était un des plus gros challenges que j'ai dû faire. Ouais.
T'as parlé aussi du fait que, ben, notamment, vous avez aussi levé des fonds pour entamer un développement à l'international. Je crois que vous avez déjà commencé à vous implanter dans d'autres pays. Je ne suis pas sûre d'avoir encore reçu des personnes, quelques-unes, mais j'ai eu peu de boîtes qui sont implantées à l'international, surtout aussi early stage. Donc, ça m'intéresse de savoir comment vous l'avez appréhendé. Quand est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour envisager un développement à l'international? Et ouais, à quoi il faut faire attention? Parce que je me rends compte, moi, que c'est vraiment pas la même culture partout, donc c'est pas les mêmes façons d'acheter, de consommer, donc c'est un vrai défi.
Bah pour le coup, du coup, s'il faut parler d'un autre échec, ça pourrait être celui-là. En fait, on a voulu lancer international assez rapidement parce que en France, le marché du yoga, il est en croissance, mais il y a d'autres pays, notamment l'Allemagne et le UK, dans lesquels il croit encore plus vite de ce qu'il croit en France. Du coup, on s'est dit, génial, opportunité trop cool, on ouvre un pop-up à Londres pour un peu tester le marché, faire quelques événements, rencontrer des profs, etc. On développe en parallèle notre site web avec une version anglaise et tu vois des prix en pounds, etc. Et en fait, il y a plusieurs raisons pour le fait qu'on n'ait pas persévéré entre guillemets dans ce truc-là, c'est que je trouve que tant que c'est pas une priorité pour ton business et que tu mets pas du coup les moyens derrière, en fait tu vas être déçu des résultats. Et du coup c'est un peu le cercle vicieux de dire bon en fait on a fait un peu les choses à moitié, du coup les résultats sont pas là, du coup en fait tu t'es déçu et tu baisses un peu les bras. Et donc avec le recul et quand on le fera du coup de manière plus poussée et plus aboutie que ce qu'on a fait là. Où en fait tu vas un peu à tâtons sans oser vraiment mettre les moyens parce qu'il y a quand même un risque financier, tu vois, tu vas pas sortir 100K sur un lancement de nouveaux pays sans savoir ce que ça peut te rapporter avant quand tu es une boîte à 2 ans et demi et qui a pas encore une solidité financière capable d'endurer des échecs à plusieurs centaines de milliers d'euros, tu vois. Donc tu es quand même toujours un peu, enfin tu vois, ta trésorerie et ton cash c'est plus important au début. Et du coup c'était un peu le cercle vertueux de tu te donnes pas les moyens d'y arriver et en fait du coup tu y arrives pas. Et du coup là en 2021 on va tester d'une manière un peu différente mais via des distributeurs dans plusieurs pays. Donc aujourd'hui on vend en gros on ship partout, on fait notamment des bons chiffres tu vois en Belgique et en Suisse. Et là on s'est dit que du coup pour 2021 on passerait par un système un peu différent qui simplifie notre logistique aussi, de passer par des distributeurs dans différents pays européens.
Ok, non mais c'est hyper intéressant d'en parler, je trouve, parce que c'est un peu comme la levée de fonds. L'international, c'est perçu comme la réussite, comme le but ultime. Et c'est vrai que, moi de l'extérieur, je me dis déjà maîtrisons vraiment très bien le pays où on a lancé. Après, on peut en effet essayer d'ouvrir à d'autres pays, mais je pense qu'il faut vraiment, enfin de ce que j'ai entendu de pas mal de podcasts, en fait souvent les fondateurs ou les fondatrices vont sur place pour ouvrir un pays parce que en fait faut être sur place pour peut-être commencer à créer une team là-bas qui a les usages du pays, qui a les compréhensions de la culture, de la consommation. Et c'est vrai que je pense notamment étant une DNVB, on a vraiment les frontières qui sont ôtées et du coup on se dit on a lancé la France, lançons le pays d'à côté. Et on sous-estime je pense vachement le rôle de la culture et de la différence entre les pays et comme tu dis, au final, c'est un apprentissage. Enfin, vous avez essayé d'une certaine manière, c'est l'autre manière qui fonctionnera. Et c'est très bien comme ça, quoi.
Exactement. Et surtout qu'au début, quand tu as lancé ton pays, donc quand on a lancé la France, tu donnes tellement les moyens, tu fais tellement de trucs, etc., que du coup, tu penses que ça va être plus facile de le répliquer dans d'autres pays. Mais comme tu dis, c'est tellement différent dans la culture, dans l'administratif, dans la manière de consommer, en fait c'est pas vraiment comme ça que ça marche quoi. Donc c'est une question d'humilité et d'apprentissage aussi qu'on a fait.
Il y a une question que je me pose vraiment aussi à titre personnel et ça m'intéresse de savoir aussi pour les autres fondateurs et fondatrices, c'est comment est-ce que tu imagines l'évolution de ta boîte, parce que j'ai l'impression que le schéma de multinationale ne fait plus trop rêver. Et personnellement j'ai toujours eu conscience que les dirigeants d'énormes boîtes n'étaient pas forcément les plus heureux. Mais il y a une espèce de paradoxe et de dilemme parce que, en fait, plus ta boîte croît, plus aussi t'es fier. Donc, enfin, voilà, y a un peu ces deux aspects-là. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un autre modèle de réussite qui est en train de se créer ? Est-ce qu'on est forcément obligé d'être very big to be very happy ? Tu vois, comment est-ce que toi, tu vois les choses ?
Ça c'est un truc dont on parlait dès le début avec Agnès, et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche si bien toutes les deux, c'est que on est très alignés sur le fait que on veut que Baya devienne une grosse entreprise, c'est-à-dire qu'elle soit connue et reconnue dans notre secteur, c'est-à-dire que quand on te parle de yoga, t'assimiles directement ça à Baya et que ça vienne vraiment en top of mind des gens qui pratiquent, des pros mais aussi des débutants, enfin vraiment de parler au plus grand nombre possible. En revanche, nous, on a aussi envie de construire une entreprise qui a un modèle de croissance, certes, mais de croissance pérenne et rentable. Et du coup, c'est aussi comment est-ce que tu vois ton développement. Est-ce que tu préfères faire beaucoup de croissance très vite, mais qui n'est pas forcément rentable, ou est-ce que tu préfères avoir une entreprise qui a des bases peut-être un petit peu plus stables, peut-être qui a un modèle de développement un poil plus lent, mais qui est plus pérenne. Et nous, on opte plutôt du coup sur ce deuxième modèle-là, qui fait qu'on fait de la croissance, souvent on fait x2 depuis nos débuts tous les ans, mais en ayant des objectifs de rentabilité, en ayant une équipe qui soit quand même construite et qui est vraiment ancrée les pieds sur terre. Donc je pense que c'est deux visions de l'entrepreneuriat. Je suis sûre qu'il y en ait une mauvaise ou une bonne, mais c'est dans laquelle toi, tu vois, tu te sens à l'aise aussi. Moi, j'ai envie qu'on puisse être indépendante, être libre, et ça passe par une rentabilité financière aussi, tu vois, donc voilà.
Ok, tu as abordé aussi le fait que la communauté de Baya est très engagée, que vous avez vraiment réussi à fédérer. Comment est-ce que vous avez fait pour ça? Est-ce que c'était déjà une de vos volontés de base? Est-ce que, bon, je pense bien sûr le fait que tu as raison, il y a ce côté un peu comme tu disais pour vos salariés, que c'est des pratiquants, donc vous êtes liés par une même passion. Mais au-delà de ça, comment tu as fait pour que Baya devienne vraiment une marque appréciée, qu'elle fédère, que moi je disais, ma prof de yoga, elle dit c'est trop cool, on a même un groupe, je crois, WhatsApp, où on peut se donner des conseils entre profs. Enfin voilà, comment vous avez fait pour créer vraiment cette communauté, cet univers autour de Baya?
Je pense que ça passe par plusieurs choses. Le premier, c'est de co-construire tes produits dès le début, donc toujours demander du feedback, toujours écouter, c'est-à-dire que quand tu as un client pas content, l'appeler, demander mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça va pas, pourquoi, enfin vraiment creuser toutes les raisons qui font que quelqu'un est content ou pas content, ça c'est hyper important. Donc ça passe aussi par le offline, tu vois, quand tu rencontres des gens sur des événements qui vont tester tes tapis, quand tu fais des pop-up stores, etc. Ça, c'est juste la culture du feedback, de demander pourquoi et de creuser, de ne pas se satisfaire de genre « oui, c'est cool, ok, pourquoi c'est cool, qu'est-ce que vous identifiez comme important, comme valeur de la marque, pour être sûr qu'on soit aligné là-dessus, etc. » Ensuite, je pense qu'on est une marque qui capitalise sur l'inclusion et la diversité des visuels qu'on utilise. On montre différentes morphologies, différentes couleurs de peau, différents niveaux de pratique. On a vraiment envie de parler au plus grand nombre, et je pense qu'on véhicule un yoga assez déculpabilisé, tu vois, de t'as pas besoin de ce dont on parlait tout à l'heure, mais de pratiquer tous les jours 1h30 pour être un bon yogi, ou t'as pas besoin d'avoir lu en sanskrit les textes fondateurs du yoga, tu vois. On a un côté assez décomplexé, assez libre et assez inclusif, qui je pense parle beaucoup du coup à notre communauté. Et peut-être le dernier point, c'est ce que tu citais sur la communauté des ambassadeurs, c'est les profs de yoga et qui ont travaillé vraiment main dans la main sur le développement des nouveaux produits, et le fait de leur proposer un vrai accompagnement. Tu vois, les profs de yoga, c'est souvent des auto-entrepreneurs qui peuvent parfois être un peu seuls. Et donc, effectivement, on a un groupe WhatsApp, on a un programme de formation, on fait intervenir des gens tous les mois pour leur permettre à eux d'enrichir leurs connaissances et leurs cours. Donc on a vraiment à cœur de qu'ils se sentent faisant partie un peu, tu vois, de la famille Baya, et qu'ils puissent bien connaître nos produits, bien en parler et participer aussi à notre création de contenu, que ce soit sur nos shootings, sur des cours qu'on va pouvoir donner, sur du contenu vidéo sur YouTube, etc. Donc on les inclut un peu sur toute notre création de contenu aussi.
Trop cool, ouais. Donc si j'ai bien compris, c'est vraiment en fait fédérer autour des valeurs communes et prendre soin des porte-parole, que ce soit les clients ou que ce soit... je pense que vous, c'est quand même assez particulier, les profs de yoga, parce que il n'y a pas beaucoup de secteurs où on peut comme ça nouer des liens avec des personnes qui peuvent directement, au final, promouvoir le produit qu'on crée. Ça, je pense que c'est vachement une vraie force. Mais trop cool, merci beaucoup pour ces enseignements. Écoute, pour terminer, j'aime bien aborder des sujets un peu plus pratico-pratiques, perso, développement personnel, tout ça, j'aime bien. Est-ce que déjà, toi, tu as une routine, tu vois, personnelle qui t'aide notamment bah, dans ton équilibre de vie, parce que je pense que c'est au final ce à quoi on aspire un peu tous et toutes. Est-ce que voilà, il y a des choses que tu mets en place pour t'aider à bien vivre ton quotidien?
Oui, il y a plusieurs choses. La première, c'est que j'aime bien travailler tôt et souvent, du coup, j'ai une heure tranquille au bureau avant que le reste de l'équipe arrive. Et c'est toujours une heure que j'aime bien avoir parce que du coup, il y a peu de sollicitations extérieures. Et du coup, ça va être un moment de concentration assez fort ou alors voilà mes goals pour la journée. Enfin, ça me permet de me poser un peu avant d'avoir des mails et des slacks et des sollicitations un peu dans tous les sens. Donc ça, j'aime bien avoir ce moment-là. On a aussi instauré un truc depuis, je sais plus, janvier ou février, qui est que le mercredi, on fait aucun rendez-vous dans l'équipe, donc t'as pas le droit d'avoir de planifier un meeting extérieur ou interne, qui fait que du coup on a du temps vraiment de concentration sans être interrompu par deux calls, un rendez-vous en physique, tu dois partir du bureau, etc. On appelle ça les no meeting day.
C'est un super conseil, ça. Franchement, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, je pense que je vais le mettre en place aussi.
Ça, franchement, ça fonctionne super bien et tout le monde joue le jeu dans l'équipe, donc c'est pas mal. Et un truc que je teste depuis 4-5 mois, c'est ce que j'ai appelé les deep dives. En fait, si tu as besoin, en gros, dans mon équipe, je demande s'il y a des besoins particuliers d'approfondissement pour aider à avancer sur certains sujets. Et du coup, je me cale 4 heures, tu vois, une demi-journée sur... je sais pas, on réfléchissait au nouveau programme ambassadeur, par exemple, sur refaire le point sur ce qui existe aujourd'hui, les problèmes qu'on a et les idées et les solutions que je peux apporter. Et donc, du coup, ça aide les personnes dans l'équipe de manière... Tu vois, c'est autre chose qu'un point hebdo où tu abordes de manière assez rapide les problèmes que les gens peuvent avoir dans ton équipe, etc. C'est de manière beaucoup plus approfondie et je trouve que moi, ça m'apporte aussi... de la vraie création de valeur au sein de l'équipe parce que je trouve que quand tu passes dans un rôle un peu plus de management, t'as moins ce côté créatif, de donner des idées, d'insuffler des trucs assez concrets et ça permet du coup d'apporter ce côté-là.
Ok, et à titre personnel, est-ce que toi t'as des routines que ce soit des temps de lecture, des temps de méditation, des temps de je sais pas ce que tu veux, qui t'aident à peut-être à garder un certain équilibre ou à décompresser?
Évidemment, je fais beaucoup de yoga, du coup, ça serait...
Ah. Assez logique. Mais après, t'as le droit de pas aimer, hein.
Mais, et ça m'aide... Enfin, ça, c'est un truc, parfois, je me demande où j'en serais dans ma vie, en tout cas d'entrepreneur ou de personne, si j'avais pas le yoga aujourd'hui. Donc, c'est hyper important, en vrai, dans ma routine perso. J'essaie au moins d'en faire... 3-4 fois par semaine, c'est un truc qui est... quand je le fais pas, tu vois, pendant une semaine, je le sens vraiment à la fois physiquement, mais aussi mentalement, où je suis beaucoup plus irritable, moins concentrée. Et c'est un peu ce que je te disais, c'est que c'est pas forcément, tu vois, des séances de 1h30 hyper intenses. Parfois, ça peut être juste 20 minutes le soir après une grosse journée de... Tu vois, juste de plus d'étirements, de respiration. Donc, c'est assez... variable. Et après, j'essaie de me garder des moments off assez régulièrement. Tu vois, c'est très très rare que je travaille le week-end, par exemple. Je sais qu'il y a peu d'entrepreneurs qui arrivent à le faire, mais nous, c'est toujours un peu une règle qu'on s'est mis avec Agnès depuis le début, c'est que le week-end, normalement, on ne travaille pas. C'est important. Donc voilà. Donc on a quand même un équilibre de vie qui est plutôt sain. Qu'il l'est d'autant plus depuis qu'on a recruté. C'est vrai que les deux premières années, c'était peut-être pas aussi, aussi délimité entre le pro et le perso.
Ouais, ça rassure, je trouve, de savoir que ça se calme avec le temps. Et tu me disais que tu avais écouté et apprécié l'épisode avec Julia Bijawi, la fondatrice de Frichy. C'est un truc qui m'a rassurée. Elle te dit, en fait, j'ai moins de problèmes aujourd'hui qu'au début de l'aventure Frichy, quoi. Alors que moi, j'ai l'impression que plus tu grandissais, plus ça allait être la galère. Et en fait, bah non, tu t'entoures. Donc, même si les responsabilités sont peut-être plus importantes, t'as des personnes pour t'aider à les surmonter. Et ça fait quand même vachement, vachement la différence, quoi.
Ouais, je pense que tu portes moins de sujets très opérationnels. Au fur et à mesure que du coup tu t'entoures et que tu as une équipe qui devient plus solide, plus experte, plus professionnelle, que t'aide à grandir, etc. En revanche, tu as du coup le poids inverse de la responsabilité plus financière, des salaires, ouais, du poids, tu vois, un peu plus mental que tu as moins au début, où en fait, quand tu es que deux, c'est très libre, tu vois. C'est au pire, on ne peut pas se payer un mois et tu vois, il n'y a pas mort d'homme, etc. Là, il faut qu'on puisse payer tout le monde à la fin du mois. Donc, je trouve que l'équilibre change un petit peu, ouais.
Ok, ouais, je comprends tout à fait. Est-ce qu'il y a aussi des ressources qui t'ont aidé, qui t'ont plu, que tu as envie de conseiller aux personnes qui nous écoutent, que ce soit un livre qui a changé ta vie, ou juste que tu as kiffé, un film, un podcast, enfin voilà, j'aime bien fournir une petite boîte à outils, tu vois, de ressources qui peuvent aider.
Je suis une grande fan du podcast Le Panier sur le e-commerce. Je ne sais pas si tu connais.
Je ne connais pas du tout. C'est trop cool. Nouveau podcast à écouter.
qui rentre plutôt dans le dur, entre guillemets, des sujets assez opérationnels, tu vois, sur de l'acquisition, sur des leviers marketing, sur. C'est des sujets très pragmatiques, avec des gens qui ont les mains dans le cambouis et qui font. Donc, c'est souvent des conseils super pratiques que tu peux essayer toi assez rapidement, etc. Donc, niveau business, je suis assez fan de ce podcast-là. Je lis pas mal d'articles, notamment sur LinkedIn, que j'utilise de plus en plus. Je suis des entrepreneurs que j'aime bien, ou des boîtes que j'aime aussi. Je trouve que LinkedIn, c'est un outil que j'utilisais pas du tout avant et que je commence de plus en plus à apprécier, à aimer. Et sinon, je suis une grande lectrice, mais alors pas du tout de sujets business ou développement pro ou autre. Je me garde ces moments un peu off pour juste du roman, tu vois.
Ah non, mais écoute, c'est pas grave du tout. Moi, tu as dû le voir avec mes podcasts, le but, c'est pas... C'est vrai que là, on a vachement parlé du pro, et c'est ça que j'aime bien avec les podcasts, c'est qu'on peut pas anticiper ce qu'on fait en parler. Mais je suis une grande fan de romans et je suis tout à fait preneuse de tes recommandations lecture de romans.
Écoute, je suis en train de lire Autant en emporte le vent.
Énorme, ouais. Tu sais, c'était le livre de mon premier confinement.
C'est vrai,
ouais. Énorme. En fait, j'avais vu le film avec ma grand-mère il y a quelques années. C'est rare que je vois un film avant un livre. Et en fait, confinement, un petit mental breakdown comme tout le monde, je me suis dit, il me faut un bon roman pour passer ça. Allez, il est 1000 pages, là, c'est
ouais, pour exactement, le pavé, mais parfait.
Ouais, ouais. Ah bah, j'ai beaucoup aimé, ouais. Même si, très frustrée par la fin, on ne spoilera rien.
Mais dis rien, je ne sais pas.
Pardon. Okay. Non, mais le livre est très bien, c'est tout ce que je dirais. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Hortense pour ce super moment. J'adore vraiment les podcasts, et même si on est en confinement, j'ai l'impression de continuer à rencontrer des gens. Donc, je trouve ça vraiment trop cool. Pour les personnes qui nous écoutent et qui maintenant meurent d'envie d'en savoir plus sur l'univers de Baya, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ?
Bah du coup, pour Baya, on est sur Instagram @bayayoga. On a prévu plein de contenus assez chouettes, notamment pour accompagner les pratiques chez soi pendant le confinement, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. On a aussi une chaîne YouTube avec plein de petits tutos de certaines postures, de flow avant d'aller dormir ou le matin, etc. Donc on a plein de très chouettes contenus. Sur notre site, c'est baya-france.com, et on répond aussi à nos mails à l'adresse hello@baya-france.com.
Trop cool. Bah écoute, je mettrai tout ça dans la note du podcast. Merci encore, et j'espère à très vite pour un cours de yoga ou autre. Ça va très vite.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup de vous être joint à ma conversation avec Hortense. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @bayayoga et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis qu'il pourrait aider, et vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, c'est peut-être qu'il vous a plu, et si c'est le cas, j'en suis vraiment heureuse. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.